Donc Loïc Grard, un professeur de droit public à l'Université de Bordeaux depuis 1994 et titulaire du cours de droit aérien en non-stop depuis cette année. Donc ça fait 30 ans que je réunis chaque année entre 50 et 100 étudiants en droit aérien, niveau master 1. Voilà qui je suis par rapport à l'objet de votre interview.
Alors, quel a été votre parcours d'étudiant?
C'est un parcours extrêmement classique. Vous savez, un beau jour, vous vous inscrivez dans une faculté de droit et puis vous faites vos études le plus sérieusement possible. Et puis vous faites des rencontres. Voilà, il y a des professeurs qui vous touchent, d'autres qui vous touchent moins. Et puis il y en a certains qui vous touchent par des idées, par des domaines de réflexion. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Puis vous savez, j'ai fait mes études dans une période qui était encore en France quasiment une période de plein emploi. Donc on ne se posait pas trop de questions sur l'avenir. Donc il y avait une sorte de liberté totale quant à ce qu'on souhaitait faire. Donc à partir de là, bien, un beau jour, j'ai rencontré la problématique européenne. Un autre jour, j'ai rencontré la problématique aérienne. Et puis le troisième jour, j'ai fait rencontrer l'Europe et l'aviation. J'ai fait une thèse de doctorat et puis j'ai terminé mes études de droit en allant au bout du bout du bout du bout. Et aller au bout du bout du bout du bout, ben, c'est devenir professeur de droit. Voilà. C'est très simple finalement.
Alors, quel a été votre parcours professionnel?
Ben, parcours professionnel, dans le fond, c'est la continuité de ce que je viens d'exprimer, hein. Vous savez, c'est toujours pareil, hein. C'est une époque où on ne se posait pas trop de questions. Il y a un concours qui s'appelle le concours d'agrégation pour devenir professeur d'université. Concours difficile, hein, parce qu'il y en a un tous les 2 ans et il y a 20 postes tous les 2 ans, hein, ce qui fait qu'on recrute en France actuellement, et à l'époque encore moins, hein, on recrutait une dizaine de professeurs par an, en moyenne. Donc, c'est un concours vers lequel on se dirigeait. En fond, sans se poser de questions, avec un peu d'inconscience, mais toujours du sérieux. Ça s'est bien passé, je l'ai eu. Je suis retrouvé professeur à 28 ans, ce qui était à l'époque extrêmement jeune, ce qui m'a donné ensuite la possibilité de travailler dans des horizons extrêmement diversifiés, à Bordeaux bien sûr, mais un peu partout en Europe et même au-delà, au fil des conférences, des congrès, des expertises. Et souvent, on m'a sollicité de plus en plus souvent sur l'aviation, sur l'Europe, sur la concurrence, et puis après l'aviation, sur le maritime, et après le maritime, sur le ferroviaire. Et puis le ferroviaire, c'est une industrie de réseau, donc on m'a sollicité sur l'énergie, donc j'ai travaillé sur l'énergie, mais en travaillant sur l'énergie, j'ai travaillé sur les carburants, et en travaillant sur les carburants, je suis revenu aux avions. Donc vous voyez, tout ça se fait très, très naturellement. Et très spontanément, en fait.
Alors, avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière d'excellence dans le domaine de l'enseignement du droit?
La rencontre particulière, c'est le directeur de thèse, hein, inévitablement. Moi, j'ai eu la chance, j'ai choisi le bon directeur de thèse, hein, qui a été parfait de bout en bout, hein, c'est le professeur Jean-Claude Gautron, qui est aujourd'hui à la retraite, hein, mais toujours actif du fond de sa retraite. Et puis voilà, c'est une collaboration sur 4 ans qui a été superbe, stimulante intellectuellement. Et puis quand il m'a dit, OK, on fait une thèse sur l'Europe, l'aviation, la concurrence, le marché. Il m'a dit, on fait la thèse, mais de toute façon, il me dit, soit vous devenez professeur d'université, soit vous travaillerez dans le milieu de l'aviation. De toute façon, vous travaillerez. Ce qui était vrai, parce que dans le fond, je suis devenu professeur d'université et j'ai eu la chance, de manière, comment dirais-je, occasionnelle, hein, parce que ça n'a jamais été, mon objectif principal, mais de manière occasionnelle, de travailler avec les milieux de l'aviation.
Alors, quelles sont les différentes réflexions qu'un juriste, un spécialiste du droit européen, peut avoir face aux dures réalités de notre modernité, liées notamment à l'environnement et à l'impact du développement de nos industries comme le spatial et l'aéronautique?
Sur ce sujet qui est, bon, c'est le sujet d'actualité, hein, je suis très sollicité depuis 10 ans à peu près, hein, sur ces questions d'empreinte écologique de l'aviation civile, hein. Moi, je travaille sur l'aviation civile, hein, très peu sur l'aviation militaire. Vous savez, quand j'ai commencé ma carrière, même quand j'ai fait ma thèse, j'interrogeais les professionnels de l'aviation. Et je leur disais à l'époque un peu timidement, est-ce qu'il y a un problème d'environnement avec l'aviation? Et à l'époque, de manière unanime, on me disait non, l'avion, ça ne pollue pas. L'avion, c'est propre. Le poids lourd, c'est terrible. On me disait les navires, oh là là, les navires, les tankers, épouvantable, le Moco Cadiz, le Torrey Canyon, j'avais droit à tout. Mais on m'expliquait, les décideurs publics, les professionnels, non, non, c'est une mauvaise idée, ça ne pollue pas. Donc, ce qui veut dire que les universitaires, on aurait quand même une longueur d'avance, sans être des techniciens, pour dire, attention, il y a peut-être un problème entre le climat, et l'aviation. Bon. Aujourd'hui, on est tombé dans l'excès contraire, où c'est le procès permanent de l'aviation, où on dit, c'est épouvantable, il faut moins voyager. On arrive à des situations où des jeunes actifs brillants se refusent à prendre l'avion et vite. Et pour moi, tout ça, dans le premier cas comme dans le deuxième cas, c'est, comment dirais-je, c'est, enfin, ce qui me frappe, c'est l'absence de nuance. Donc moi, ce que je plaide, c'est évidemment la nuance. Oui, l'avion pollue. Oui, que l'aviation aujourd'hui est à l'origine de 2% des émissions de CO2, bon, personne ne conteste. Mais ça veut dire que l'aviation n'émet pas 98% du CO2 aussi. Bon, donc ce qui veut dire qu'on ne résoudra pas le problème des changements climatiques avec, je dirais, le traitement par la réduction des vols des seuls avions. Alors qu'il faut une croissance raisonnable. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai envie qu'il ne faut pas être déraisonnable dans la décroissance de l'aviation non plus. Donc c'est pour ça que sur l'aviation, les juristes sont présents pour accompagner les ingénieurs, les chercheurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur les carburants alternatifs, il y a beaucoup de recherches sur des trajectoires plus intelligentes. Et donc le juriste, il est là, évidemment, pour favoriser et encadrer et environner les initiatives qui permettront finalement de ne pas freiner la mobilité, parce que l'humain a besoin de bouger, parce que pour vivre bien dans cette planète ensemble, il faut se connaître, et pour se connaître, il faut se voir, et pour se voir, il faut se rencontrer. La visio, ça ne fait pas tout. Bon, aujourd'hui, nous sommes en visio, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais il est très clair qu'un interview comme aujourd'hui entre vous et moi, ça serait beaucoup plus agréable physiquement, de se connaître, se serrer la main, de se dire des choses qu'on ne se dirait peut-être pas en visio. Et l'aviation est quand même un formidable outil de rapprochement. C'est un outil qui crée du lien social, qui permet de favoriser ce lien social à l'échelle d'une planète qui est de plus en plus peuplée. Oui, maîtriser la croissance de l'aviation dans le respect de la préservation du climat et de notre planète, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il faille se priver, qu'il faille créer un problème social sous couvert de régler un problème environnemental. Vous comprenez? Donc moi, je suis évidemment parfaitement hostile à toute démarche idéologique de ce point de vue.
Alors, dans le droit français, qu'est-ce que la souveraineté industrielle? Qu'est-ce qui la caractérise?
D'abord, il faut revenir sur la définition de la souveraineté. Le problème, c'est que ce mot souveraineté, aujourd'hui, on l'utilise à tort et à travers, il est parfaitement galvaudé. Moi, je ne connais qu'une seule définition, hein, c'est la définition des juristes allemands. C'est-à-dire, qu'est-ce que la souveraineté? C'est celui qui est souverain, c'est celui qui a la compétence pour définir ce qui relève de ses compétences. C'est-à-dire, en clair, qu'il a la compétence originaire. Donc, à partir de là, moi, je reviens à Rousseau. Le souverain, c'est moi. Voilà, c'est vous. Nous sommes souverains. Nous avons la compétence de la compétence et nous avons décidé par le contrat social de remettre à l'État cette compétence. Donc c'est ça la souveraineté fondamentalement. Donc qu'est-ce qu'une souveraineté industrielle? C'est d'avoir la compétence de définir les choix qu'on souhaite faire pour développer sa propre industrie. Alors aujourd'hui, évidemment, le grand débat, c'est que notamment le président Macron a mis ça en avant, la souveraineté de l'Union européenne, la souveraineté économique, faire un Airbus des batteries, que sais-je encore, pour une souveraineté européenne, parce que le contrat social français, une souveraineté française ne suffit pas, donc il faut un contrat social européen, et qu'on remette à l'Union européenne cette capacité d'avoir un développement industriel plus proche de ses besoins et créer à chaque fois que c'est possible des situations de moindre dépendance par rapport à des facteurs de production extérieurs. Bon. Ça, moi j'entends bien, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais enfin, les faits sont têtus. Il y a une vague qui fait que depuis 50 ans, les t-shirts et les chemises et les accords multifibres et la suite, on les fabrique au Maroc et en Chine et on les fabrique de moins en moins en Europe. Enfin, je dis Maroc et la Chine, il y a beaucoup d'autres exemples, hein. Mais c'est un fait, il y a une vague, il faut faire avec la vague. Bon. Donc vouloir, là aussi, idéologiquement, ramener sur le territoire européen des choses qui sont perdues depuis bien longtemps, le ramener pour des considérations uniquement idéologiques, c'est stupide. Si en revanche, il y a des considérations qui démontrent qu'aujourd'hui, il est objectivement et raisonnablement intéressant de reprendre, parce qu'il y a des raisons objectives liées à la technologie, liées à l'innovation, liées à la compétitivité, de reprendre des choses au niveau européen, sur le territoire européen, ça je l'entends. Mais si c'est reprendre pour reprendre, parce que on ne veut plus être exclusivement dépendant de l'extérieur. Vous voyez, là aussi, c'est une question de nuance et c'est une question d'approche qui, évidemment, ne doit pas être idéologique, doit être pragmatique.
Alors, quelle a été son évolution de 1960 à aujourd'hui, période où nous avons plusieurs révolutions technologiques? J'ai pris 1960, mais c'est pour parce qu'à partir des années 60, on a eu énormément, bien entendu, de révolutions dans le domaine de l'électronique, la microélectronique et toutes ces nouvelles technologies, pour prendre que deux exemples, quoi.
Concernant l'aviation, votre question?
Comme concernant l'évolution de la souveraineté industrielle, en fait. Est-ce qu'on a eu une baisse de la souveraineté? Parce que ce que l'on voit actuellement, même au niveau des réflexions, effectivement, comme vous l'avez souligné, le terme de souveraineté, est très galvaudé. Mais on ne sait pas à quoi on se réfère, même historiquement, forcément à son évolution, quoi.
L'idée, c'est de ne pas être dépendant de quelqu'un qui décide pour vous sur les choix industriels. Donc l'idée, c'est véritablement que nous soyons capables en Europe de décider par nous-mêmes quels sont les choix industriels qui correspondent à nos besoins et à la satisfaction, à la demande de nos citoyens. C'est ça la réponse. Alors qu'est-ce qui a évolué depuis 60 ans? Ben, l'industrie a évolué. L'industrie de 2023 n'est pas l'industrie de 1960 et il y a eu la révolution numérique entre-temps. Donc, quelque part, on a laissé filer la vieille industrie, mais enfin, sur l'industrie la plus pointue, la plus avancée, nous restons encore leaders, qu'on le veuille ou non. Voilà, après, aujourd'hui, il est avéré que sur une activité industrielle polymorphe, on ne peut pas être premier de la classe partout. Enfin, il faut aussi l'admettre. La vieille Europe, voilà, c'est 500 millions d'habitants, c'est un héritage profond, mais on ne peut pas tout faire en Europe. Donc, on vit sur une planète et les activités doivent se partager sur cette planète. Et puis, évidemment, éviter l'exclusion, ça, c'est un souci qui doit être permanent. Mais c'est vrai qu'il faut l'admettre, aujourd'hui, on a quand même des hommes de cette planète dont on peut dire qu'elles sont exclues à certains égards et qu'il ne faut pas s'étonner des poussées démographiques auxquelles on assiste et des poussées migratoires. Il faut
Quelles
les
sont les
comprendre.
attitudes d'un juriste qui a conscience qu'un état de droit, en prenant une image, est le fils de l'écriture dans sa complexité et son génie propre avec la spécificité de la langue française? en tenant compte que pour l'élaboration du droit, il faut une maîtrise parfaite de la langue française, mais qu'en même temps, dans notre société actuelle, une partie, et je dis bien une partie utilise quotidiennement différentes nouvelles technologies, comme les téléphones portables, les écrans, tout en perdant ce savoir d'excellence qu'est l'écrit créatif et la conscience des réalités de notre société qui peuvent, et je dis bien qui peuvent, tendre à disparaître.
Oui, bon, ça, je crois qu'il faut pas tomber dans ce genre d'analyse. Bon, les outils ont changé, c'est un fait. La manière de converser, de répandre les idées, c'est profondément modifié avec le numérique. Bon, alors, il s'écrit tout et n'importe quoi sur le numérique, enfin, il s'est toujours écrit tout et n'importe quoi. C'est un problème de degré, c'est pas un problème de nature. Il y a une amplification du n'importe quoi, mais il y a aussi une amplification de la qualité. Donc là aussi, c'est toujours un problème de nuance. J'y reviens. En revanche, ce qui est beaucoup plus inquiétant, pour revenir sur votre idée de souveraineté précédente, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à des phénomènes de souveraineté numérique. Et là, qui correspond bien à ce que je dis, c'est que les grandes entreprises du numérique, décident de sur quoi elles sont compétentes. Et évidemment, c'est en leur sein. Ben moi, je dis souvent, créons une constitution numérique, créons un contrat social numérique, et faisons une constitution numérique, et faisons des élections numériques, que les consommateurs du numérique élisent un parlement numérique, qui fasse une législation du numérique, et que ce ne soit pas Monsieur Zuckerberg et ses équipes tout seuls qui décident de ce qui est bon ou pas bon pour nous, pas J. Zuckerberg ou un autre, hein. Mais que les usagers, les consommateurs, je ne sais pas comment les utiliser, les qualifier, les utilisateurs, mais soient capables de faire entendre leur voix et que quelque part, les lois, les outils numériques soient décidés par ceux à qui elles s'adressent. Voilà. Ce que je suis en train de vous refaire, c'est Montesquieu, hein. Vous voyez qu'on parle de choses très modernes, mais que finalement, je suis revenu la première fois sur Rousseau et la deuxième fois sur Montesquieu. On retombe toujours, vous savez, sur les grands philosophes du XVIIIe siècle, hein.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour vous, les associations scientifiques et techniques sont-elles une nécessité au sein de notre société et pourquoi?
Transférer, faut transférer. Le savoir peut pas rester dans un château. C'est la parabole dans le fameux ouvrage Le nom de la rose, où finalement la bâtisse finit par flamber et puis la culture se répand. Parce qu'on a un besoin dans une société, évidemment, de transparence, de partage, etc. Donc, qu'il y ait un dialogue entre le scientifique et le technicien, entre l'universitaire et l'ingénieur et le consommateur, mais tout ça est tout à fait logique. C'est la fonction d'un universitaire. D'ailleurs, dans le code de l'éducation, il y a un article qui définit les fonctions de l'universitaire et, entre autres, il dit, il est là pour enseigner, il est là pour chercher et il est là pour diffuser le savoir qu'il fabrique. Donc évidemment, le dialogue est tout à fait essentiel et l'universitaire a toute sa place dans la cité, c'est-à-dire que le savoir qu'il produit ne doit pas rester dans le cercle des universités, il doit être valorisé et partagé le plus possible.
Et pour finir, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par le droit en général et le droit lié à l'environnement et à l'aéronautique en particulier?
Ben, ce que je leur conseille, c'est que si ils ont envie de se diriger vers des activités en lien avec ce que vous venez d'évoquer, qu'ils y aillent. Parce que ce qui est important dans la vie, c'est de faire des choses qui plaisent, et quand on a cette chance, c'est formidable. Donc aujourd'hui, si on a des jeunes qui veulent travailler sur la protection de l'environnement dans le milieu de l'aviation civile, qu'ils se donnent à plein dans ces projets. Qui sont compliqués parce que l'aviation civile a une spécificité au regard des droits de l'environnement, c'est que dans beaucoup de domaines, si vous voulez, c'est des spécialistes de l'environnement qui décident des règles et les règles s'appliquent à un secteur spécifique. Dans le domaine de l'aviation, c'est les professions de l'aéronautique qui, quelque part, décident pour elles-mêmes de la manière dont elles vont gérer les problèmes liés à l'environnement. Et de ce point de vue, il y a d'ailleurs peut-être un déficit démocratique, parce que, dans le fond, si vous regardez bien les réformes depuis 20 ans, vous voyez bien que c'est à l'Organisation de l'aviation civile internationale que ça s'est décidé, que c'est beaucoup les spécialistes de l'aviation qui se positionnent et que le dialogue avec ceux qui sont spécialistes de l'environnement et qui pourraient expliquer que dans telle autre industrie, on a fait comme ci, dans telle autre industrie, on a fait comme ça, et qui pourraient donc amener des choses, des changes, comme on dit, de best practices entre univers différents. L'aviation n'a peut-être pas trop joué ce jeu. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est intéressez-vous à l'aviation et amenez à l'aviation une culture environnementale d'ailleurs, pour que l'aviation progresse dans sa culture environnementale.